Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir pour ceux qui nous écoutent en direct, bonjour pour ceux qui nous écouteront en différé sur Internet. Le Libre Journal de Littérature, animé par son animateur habituel, clôture ce soir cette auguste série Barbé d'Aurevilly qui nous accompagne depuis le mois de septembre. C'est un écrivain que l'on croit connaître, que l'on a presque épuisé à force d'émissions. D'abord sa jeunesse et ses premières œuvres, puis ses articles avec le professeur Pierre Glaude, ses passions avec nous-mêmes et notre équipe, sa dévotion pour Dieu et le diable avec Jacques Sirgent, son histoire légendaire réinventée avec le professeur Pascal Auré-Jonchière. Un romancier historique, un auteur dandy, un début et un fin de siècle, un romantique attardé, un pamphlétaire contre-révolutionnaire. Barbé résiste à toutes les catégories tant il les accumule. Toutes trop étroites, toutes trop commodes en littérature, d'un usage facile et parfois nécessaire, ce soir nous voudrions tenter autre chose. Une approche plus oblique, plus rare, nous voulons vous parler d'un Barbé de pierre, de lumière, d'encre, de pigments, d'eau forte, d'aquarelle. Sur grand et sur petit écran, un Barbé en photographie, en pays d'art et d'histoire, un Barbé qui s'écrit et se regarde, un Barbé son et lumière, nous voulons vous parler de Barbé et des arts visuels. Barbé en peinture, silhouette tranchée, regard incendiaire, clair-obscur mental, Barbé en portrait, figé et pourtant insaisissable, Barbé en estampe, en eau forte, en aquarelle, tantôt vaporisé, tantôt incisé, toujours menacé de trahison par la fixité du trait ou l'épaisseur du pigment. Barbé en photographie, chez Nadar notamment, où le dandy devient presque apparition, figure déjà spectralisée par sa propre légende. Barbé sur scène, masque, geste, posture, voix travaillée, Barbé en galerie d'art, objet de regard, de relecture, Barbé critique, mais critique indocile, sensitif, intuitif, plus porté à la fulgurance qu'au système. Barbé en musique, non pas compositeur, mais oreille aristocratique, capable d'entendre dans Frédéric Chopin une dentelle de fer. Barbé sur grand et petit écran, transposé, recomposé, parfois trahi, parfois révélé, de Alexandre Astruc à Catherine Breillat. Barbé chez l'ORTF, patrimonialisé, presque assagi. Un Barbé, comme on le disait, son et lumière, mais sans spectacle officiel, sans subvention. Un Barbé qui ne cesse de changer de support sans jamais se laisser fixer ou enfermer dans la matrice. Un Barbé disséminé dans les formes et peut-être irréductible à chacune d'elles. Avec nos invités, nous traverserons les arts visuels, bien sûr, la peinture, bien sûr, la sculpture, bien sûr, l'illustration, mais aussi la musique. Et jusqu'au cinéma, cet art qu'il n'a pas connu, mais qui semble parfois annoncé par la violence même de certaines de ses scènes. Nous verrons un Barbé critique, mais critique rétif, indocile, étranger au système. Élégante clôture de ce cycle aurévilien que nous avons conduit ces derniers mois, sixième émission et dernière, avec mes invités et chroniqueurs habituels, Mario Varro et Bruno Santoram. Êtes-vous parmi nous ?
Tout à fait, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez depuis la Normandie. Nous aurons d'ailleurs ce soir le privilège d'avoir un autre invité normand. J'ai le bonheur d'être accompagné de Catherine Joseph. Bonsoir, madame.
Bonsoir, bonsoir à tous, ou bonjour, selon l'heure.
Et selon le support. Vous êtes présidente de la société Barbé d'Aurevilly. Vous êtes également docteur en littérature comparée. Et vous avez commis une thèse il y a plusieurs années dont vous allez rappeler l'intitulé aux auditeurs.
Absolument. Il s'agit de Jules Barbé d'Aurevilly et les arts visuels.
Chez Berlioz, le sacré devient presque intime, presque fragile, comme si la foi passait par une sensibilité nerveuse. Barbé, lui, aurait vu la trace d'un christianisme déjà travaillé par la modernité. Élégante introduction de notre première partie, Barbé et les arts visuels, qui reprend avec fort à propos votre sujet d'étude et votre thèse de doctorat. Catherine Joseph, avant de commencer notre émission, notre étude, vous avez, je crois, un lien très personnel et une histoire avec Barbé d'Aurevilly. Cela tient à vos carrière, à votre parcours et même à vos habitudes de vie.
Alors cela tient avant tout à un univers familial pour lequel Barbé est un écrivain de haut rang. Donc ce qui veut dire que dès l'enfance, j'ai eu la chance d'être confrontée à son œuvre et ma mère, qui était une grande admiratrice de l'auteur, m'a confié, alors que j'étais en cinquième seulement, Le Chevalier des Touches en lecture suivie, dont j'ai dû lui faire un rapport alors que je ne savais rien de la chouannerie encore. Et l'année suivante, j'étais encore bien jeune, en quatrième, j'ai lu par moi-même Un prêtre marié et ça a été le choc. Et depuis, je n'ai jamais quitté cet auteur qui m'accompagne. Je le lis, le relis avec un grand plaisir. Et bien sûr, bien plus modestement que lui, j'ai la chance de pouvoir être en Normandie, en Cotentin, en son pays, chaque fois que mon travail me le permet. J'enseigne encore un peu Et lors des vacances scolaires, eh bien, je suis du côté de Saint-Sauveur-le-Vicomte ou bien de Valognes.
Quelles sont les activités de la société Barbey d'Aurevilly que vous présidez, Catherine Joseph?
Alors, nous avons régulièrement la production d'un bulletin. Donc, si des gens veulent adhérer, notre site est tout à fait visible sur Internet. Cela permet de recevoir un bulletin avec toutes les actualités qui concernent Barbey d'Aurevilly et de lire quelques articles qui, pour certains, sont des articles de fond. Et nous avons une journée pèlerinage tous les premiers samedis du mois de septembre. Lors de cette journée, nous accueillons des grands noms, c'est-à-dire que nous avons déjà reçu Pascal Auré-Jonchière qui est venu nous parler de la notion d'hôte.
Nous également.
Voilà. Nous avons reçu Marie-Françoise Mesnoux-Montaubin qui est venue nous parler de Barbey journaliste. Nous avons reçu, bien sûr, Pierre Glaude qui est venu nous parler des passions. Monsieur Abel Hauser, qui est venu nous parler d'une histoire sans nom. Donc là, c'était un professeur tout à fait érudit sur les questions de psychologie et autres. C'était fort intéressant. Nous avons reçu Gérard Gengembre, qui nous a parlé de Tocqueville et de Barbey. Et nous nous apprêtons à recevoir le professeur Guyot, qui viendra nous parler des rapports qu'entretenait Barbey avec Baudelaire. Donc nous avons une activité très intense lors de cette journée eurovillienne qui se déroule chaque premier samedi du mois. Donc j'invite tous les auditeurs qui seraient curieux d'en savoir plus de nous rejoindre via Internet et un petit bulletin d'adhésion.
Les auditeurs qui ont une maison de vacances ou une villégiature en Normandie pourront effectivement, avec profit, suivre ou participer aux activités de la société Barbey d'Aurevilly. Dans votre thèse, Catherine Joseph, vous écrivez vous-même que son sujet, Barbey et les arts visuels, peut engendrer une certaine perplexité ou curiosité. Voici Barbey contemporain, moderne, un auteur absolu à l'heure de la civilisation de l'image, du mouvement et de la vitesse. Ce sujet n'apparaît-il pas au premier abord comme une véritable gageure, Catherine Joseph?
Alors oui, ça apparaît comme une gageure dans le sens où Barbey, généralement, n'était pas perçu comme un critique d'art autorisé. D'ailleurs, il était le premier à revendiquer hein, cette forme d'amateurisme noble. Parce qu'il n'a pas, à la différence par exemple de Baudelaire, assumé des salons qui auraient fait autorité. Et puis, on ne lui a pas allié finalement un peintre ou un sculpteur avec lequel il aurait pu être en compagnonnage. Je pense à Huysmans et Gustave Moreau, à Baudelaire et Delacroix, à Champfleury et Courbet, ou à Zola et Manet. Or, c'est sans doute une erreur que nous avons tous commise parce que Barbey est au contraire très proche d'un peintre comme Jean-François Millet, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. J'ai essayé de montrer qu'au contraire, il avait une sensibilité aux arts, quels que soient les arts d'ailleurs, avec évidemment pour lui une supériorité absolue pour la sculpture.
Effectivement, vous expliquez que Barbey d'Aurevilly, contrairement à Théophile Gautier, contrairement à Charles Baudelaire, contrairement au Goncourt, contrairement à Huysmans, ou même à Proust, n'a pas été reconnu comme véritablement esthète. En tout cas, il ne l'a pas été immédiatement. Peut-on néanmoins le considérer dans cette catégorie au sens plein et entier du terme? Barbey d'Aurevilly, c'était certes une esthétique d'écriture, mais aussi une esthétique de vie et un rapport à l'art et au regard.
Absolument. Je crois que Barbey croise plusieurs dimensions artistiques. Il est à la fois un auteur qui s'intéresse à l'art. On voit chez lui des descriptions qui sont vraiment des transpositions de tableaux, des citations, bien sûr, de grands peintres, d'artistes. Et puis, évidemment, surtout, sa manière d'apparaître est une manière d'apparaître extrêmement artiste, c'est-à-dire qu'il est lui-même une œuvre d'art. Et ça, c'est à considérer.
Versons un peu dans ce lieu commun littéraire, on vous cite, en ce premier 19e, notamment dans les années 1830-1850, on rêve de l'union des arts. Balzac en témoigne. Alors les peintres devinrent écrivains. Fromentin, Hugo fut un admirable dessinateur, Delacroix ne cessa d'écrire. Alors chez les écrivains, au moment où naît le réalisme, la métaphore du tableau est commune. Elle se rencontre très fréquemment dans l'œuvre balzacienne. Quand il s'agit de faire une description, elle est presque de rigueur. Un paysage est un tableau. Et celui qui est en train de faire une description est du même coup un peintre. Barbey s'inscrit-il dans cette tradition de l'union et de l'unité des arts, Catherine Joseph?
Oui, spontanément, lorsque Barbet procède à une description, c'est aussi sur un mode balzacien, c'est-à-dire qu'il va nous dire les personnages au travers de ce qui les entoure. C'est tout à fait visible dans Le Chevalier des Touches, quand on est dans le salon où Aimé de Spence vient d'être accueilli. On sait très bien que les tapisseries qui sont décrites, que l'univers qui est tout autour des personnages est un univers extrêmement aristocratique. Donc le fait même de décrire une pièce renvoie bien sûr à la valeur des personnages et permet d'en comprendre l'intensité.
Vous expliquez justement qu'il y a chez Barbet à la fois un art sacré et un art profane. Cette distinction est intéressante et sans doute opérante pour comprendre l'œuvre. En effet, dès ses œuvres de jeunesse et qui portent en elles celle de la maturité, il semble hiérarchiser plusieurs expressions, plastiques, sculptures, peintures, arts décoratifs. Il semble qu'effectivement, Barbet est attaché grande importance à la physiologie, au corps, n'est-ce pas, à la sculpture telle qu'elle a pu être magnifiée, telle qu'elle a pu magnifier l'humain.
Alors c'est absolument vrai et c'est en germe, je crois, dès les toutes premières œuvres qu'on va qualifier peut-être de plus profane parce qu'il n'a pas encore fait sa conversion. Bon, il faut attendre les années 46-50 pour que ce soit véritablement effectif, mais il n'empêche que même dans les œuvres toutes premières des années 30, on sent très bien déjà l'artiste, une façon de corporiser au travers de la sculpture, et c'est flagrant dès les toutes premières œuvres, que ce soit Léa, et puis ensuite les arts vont être transposés les uns après les autres. La bague d'Hannibal, c'est un véritable petit bracelet qui se dessine au fur et à mesure des strophes, qui s'enchaînent, etc. Donc Barbet est artiste de toutes les façons dans sa manière d'écrire et de composer.
Vous diriez donc que la matérialité, par exemple, de la bague d'Hannibal n'est pas uniquement un ornement de titre. Il y a aussi une matérialité de l'objet importante dans les œuvres de Barbet d'Aurevilly.
Oui, absolument, et c'est ce qui les transcende. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'art pour faire joli, c'est aussi pour donner un sens plus profond. Alors évidemment, les choses vont s'épaissir au fur et à mesure d'une écriture qui devient de plus en plus mûre, de plus en plus mature. Et il est évident que si l'on prend par exemple une histoire sans nom, qui est la dernière véritable œuvre, elle comprend absolument toutes les qualités de l'écriture orwellienne. On a tout ce qui représente l'art, les couleurs, on a la profondeur et puis surtout bon, cette intensité religieuse à laquelle je fais allusion.
Ça, on y reviendra justement, voilà. Mais par exemple, dans Une vieille maîtresse, je crois qu'il y a un luxe de précision d'objets, notamment en incipit. Il y a des théières, des prie-dieux, des volets.
Absolument, et c'est ce qui a d'ailleurs tant frappé Catherine Breillat et qui a voulu, lors de son adaptation, en faire cas. Oui, bien sûr, des médaillons, les objets, les bracelets, tout ce qui relève de l'ornement, mais qui dit plus que l'ornement. Ce n'est pas l'ornement pour faire joli, encore une fois, ouais. C'est pour dire la profondeur du personnage, c'est pour dire éventuellement que Vellini est une femme qui a un attrait aussi oriental, donc il faut montrer effectivement cette accumulation de bijoux, mais qui fait partie du personnage.
Et justement, peut-on y voir l'influence balzacienne? On sait que Balzac a surpris par son luxe d'objets, par sa manière de charger les intérieurs, par parfois des digressions de 40 pages sur la machine à écrire, enfin l'imprimerie plutôt, sur le je ne sais pas quel antichambre, quel salon. Est-ce qu'on peut pas y voir le Barbet lecteur?
Oui, mais c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la représentation, la description, que ce soit celle d'un intérieur ou d'un personnage, dit plus que la description. Ça dit aussi l'intériorité et la manière d'être du dit personnage.
Et la position sociale, peut-être ?
Et la position sociale. On sait que Vellini était vêtue comme personne, on sait qu'elle avait ce côté bohémienne, on sait qu'elle était étrange, qu'elle était étrangère dans sa manière d'être, dans sa manière d'apparaître. Et ça, tout est dit chez Barbet dans les descriptions qu'il en propose, y compris les descriptions de son intérieur.
Bruno Santorum pourrait y répondre éventuellement, mais est-ce qu'on peut observer une différence entre le Barbet normand, ceux des salons de Valognes qu'il a pu décrire en incipit, et le Barbet parisien? Notamment dans une vieille maîtresse,
Oui,
notamment dans
alors.
le goût affiché pour l'objet.
Oui, bien sûr. Alors là, on est vraiment dans le roman qui est composé en deux parties, avec la partie parisienne, la partie des salons, comme vous le dites justement, le bal, la rencontre, et la partie sûrement beaucoup plus intérieure et intériorisée, qui est celle de la Normandie profonde, du Cotentin et bien sûr de Barneville, de Carteret. Enfin, voilà, là, on ressent vraiment le pays profond qui est le pays de Barbet et qui apparaît effectivement dans l'œuvre d'une vieille maîtresse.
Vous distinguez nettement dans votre thèse l'art profane et l'art sacré. Cette conversion de Barbet que l'on situe entre 1846 et 1848 constitue-t-elle un tournant esthétique dans son œuvre, notamment au regard de son rapport à l'art?
Alors je dirais qu'elle constitue un tournant qui est très visible dans tous ses écrits intimes. Je pense par exemple au Mémoranda, quand on relit le cinquième mémorandum, qui est vraiment celui lié à la Normandie, on voit que Barbet attache une grande importance à l'intériorité, à la religiosité. Il n'hésite pas à décrire la petite église de Saint-Sauveur-le-Vicomte, à expliquer qu'il reste un temps assez long finalement dans la chapelle du Saint-Sacrement pour se recueillir, etc. Et ça, c'est vraiment un tournant de l'après-conversion et qui est très très net dans les écrits intimes, mais pas seulement. On ressent chez Barbet un besoin de religiosité, bon, c'est le cas dans Un prêtre marié avec le personnage de Calixte, mais pas seulement, c'est vraiment dans chacune des œuvres post-conversion qu'on ressent le catholique, mais un catholique qui n'a pas la ferveur du pharisien apparente, hein, catholique profond.
Et pour en revenir à l'art, est-ce que son œuvre, après la conversion, n'a-t-elle pas tendance à se charger d'un certain faste tridentin? Est-ce qu'on ne voit pas justement cet ornement d'église, cette esthétique espagnole à propos de la Vellini?
Oui, peut-être. Et puis là, j'en reviendrai à son personnage lui-même, parce que finalement, quand il entre en écriture, le fait de se charger d'une tunique qui est une véritable dalmatique rouge, qui correspond justement à la couleur fétiche de son œuvre, fait partie, oui, effectivement, de ce faste tridentin. Et pourquoi pas le voir aussi de cette manière.
Dans L'Ensorcelé d'un prêtre marié, il me semble qu'il y a comme un déploiement d'une certaine liturgie et d'une certaine iconographie chrétienne. On l'est là proprement parlé dans l'art chrétien, de vitraux, de calvaires ou autre.
Alors ça, c'est pour moi très vrai, par exemple, dans Un prêtre marié, parce que Calixte est vraiment associé à l'idée de la religieuse qui est en prière constante pour tâcher de rappeler un père à la foi, et cela passe par l'art, c'est-à-dire que effectivement, là, Barbet, on va dire, surenchérit sur tout ce qui peut être rappel sur la messe de Bolsen, sur Raphaël, sur différents. Comment dirais-je, différents peintres qui sont des peintres majeurs. Et Calixte, effectivement, est elle-même quelque part une œuvre d'art dans la façon dont elle est
Oui,
décrite.
vous parlez à ce propos d'esthétique oxymorique, un terme sur lequel on pourrait s'attarder, à la fois la pureté et la corruption.
Alors, la pureté indéniable de ce personnage et la corruption qui est présente dans tout le roman. Que ce soit au moment où Sombreval rachète la demeure du Quesnay, qui est en ruine, et devant ruine devant laquelle il ressent une forme de jouissance, mais c'est une jouissance totalement corrompue. Et là, Barbet montre son talent de descripteur, et on a vraiment une œuvre d'art qui apparaît, mais une œuvre d'art déliquescente, qui est celle du château des Soufflets, qui est tombé en ruine et que Sombreval rachète parce qu'il a fait d'une certaine manière une fortune plus ou moins honnête du point
On
de vue de
pourrait parler
Barbet.
à propos, sur un plan artistique, de clair-obscur, finalement.
Oui, alors ça, c'est ce qui traverse, je crois, toute l'œuvre de Barbet. C'est vrai pour son premier roman, Germaine, qui devient Ce qui ne meurt pas. C'est également vrai pour Une histoire sans nom. Oui, le clair-obscur est évidemment présent, mais dans, j'allais dire, chacun des romans.
Vous montrez quelques images saisissantes qui peuvent, à proprement parler, être rattachées à une esthétique ou même au style d'un peintre. Par exemple, les personnages seraient éclairés à la façon de Rembrandt, je crois. Ou la mélancolie de l'asthénie qui évoquerait les peintures de Dürer, il me semble.
Oui, parce que l'asthénie est retrouvée dans l'escalier exactement dans la même pose et la même posture que la gravure de Dürer. Et là, c'est flagrant parce que Barbet cite l'œuvre elle-même et il y a une espèce de superposition et de calque qui fait que l'écriture redit l'œuvre elle-même. Donc oui, c'est tout à fait flagrant.
À ce propos, il serait question pour Balzac d'un musée imaginaire, une sorte d'œuvre qui jalonnerait d'œuvres, d'autres œuvres artistiques, visuelles. On parlait de dialogue entre les supports, on parlait d'unité de l'art. Est-ce que Barbet pourrait composer un musée imaginaire? Est-ce qu'on pourrait le rapprocher encore d'autres peintres, d'autres auteurs, d'autres dessinateurs?
Oui, absolument. Alors, le musée imaginaire de Balzac existe puisque Monsieur Gagneux a effectivement proposé un ouvrage qui porte ce titre, et on pourrait faire la même chose avec Barbet, en réservant une place d'honneur à Jean-François Millet, c'est évident. Mais il y a beaucoup d'autres peintres qui sont
Vous pouvez
cités de
développer
l'enfant.
sur l'aspect Barbet, Jean-François Millet, puisque je pense que ça intéresserait nos auditeurs, notamment normands.
Oui, absolument. Barbet a consacré d'ailleurs un article à Jean-François Millet dans lequel il explique combien Millet est un peintre du terroir, un peintre fait de la même glaise, de la même profondeur d'ailleurs que lui-même, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment frères de pensée, frères aussi dans leur vision du monde, c'est-à-dire que Millet est très proche de la Bible, il lit régulièrement les textes sacrés, et c'est ce qui impressionne beaucoup Barbet, qui en fait un modèle absolu de moralité, mais pas au sens de la petite morale, mais au sens de ce qu'il y a de plus intense et de plus beau dans l'âme humaine, et il explique combien les personnages qui sont peints par Millet sont des personnages de grande profondeur issus de cette glaise qui est celle du Cotentin, de la Hague, et avec des personnages qui finalement existent dans un périmètre qui est celui qui est le plus sauvage au fond. Et ça touche énormément Barbet. Il fait un parallèle avec Rousseau. Mais justement, il trouve qu'il y a une supériorité chez Millet parce que Millet est capable d'intégrer la nature humaine, une nature profonde, paisible et loin finalement de toute superficialité.
D'autres peintres que vous pourriez rapprocher de l'esthétique aurévilienne, s'ils vous viennent. Il est tard, je sais bien.
Oui. Alors, il y a bien sûr les peintres qu'il a admirés. Bon, je pense à la Vierge de Van der Weyden, qui fait partie de la collection Mancel et devant laquelle il est tombé en oraison. Donc on voit bien que Barbet peut être très touché par l'art et par une œuvre, alors que finalement il a bien sûr profité de l'érudition de Mancel pour tâcher d'agrandir encore sa propre culture artistique, mais on sent bien que le Pérugin, par exemple, le touche moins que Van der Weyden, par exemple.
Si Bruno Santoram ou Mario Varro voulaient intervenir, ou eux-mêmes évoquer une sensibilité artistique à leur lecture de Barbet d'Aurevilly, nous parlons effectivement de Jean-François Millet, donc de la Normandie. Il est un acteur patrimonial, il est une personnalité que les éditeurs, que j'aurais aimé que les éditeurs entendent. Nous sommes en ligne avec Julien Des. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça, monsieur. Vous êtes historien de l'art, animateur de l'architecture et du patrimoine pour la municipalité de Valognes, et vous êtes également directeur de l'association Pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin. Alors peut-être pouvez-vous d'abord nous présenter, puisque nous parlions justement de Barbet en Pays, de Barbet du pic du côté pictural de Normandie, peut-être pourriez-vous nous présenter l'activité intense de votre association en rapport avec Barbet d'Aurevilly.
Oui, alors le Pays d'art et d'histoire, c'est un service culturel. Comment dire, c'est une convention passée avec le ministère de la Culture. C'est un réseau qui s'étend sur toute la France. On est plus de 200 à partager ce label de ville et Pays d'art et d'histoire. Et ici, localement, nous sommes désormais portés par l'agglomération du Cotentin. Donc, ce n'est pas exactement une association. C'est un vieux service maintenant, parce que ça fait 25 ans que nous sommes sur le territoire. À essayer d'approfondir à peu près toutes les strates de ce qui fait le récit de ce territoire. Et Barbet en est un élément, effectivement, comment dire, une partie saillante, une partie concluante aussi, peut-être, de tout un regard qui peut se porter sur le Cotentin. Et donc, la richesse de ce que l'on peut proposer, ou l'intérêt, c'est à la fois de partager la réflexion de Catherine Joseph, d'avoir le plaisir de pouvoir l'entendre fréquemment, de Bruno Santorum, autant de personnes avec qui j'ai souvent plaisir à travailler. C'est souligner aussi une continuité d'énormément de prédécesseurs qui ont fait un travail admirable de transmission autour de Barbet d'Aurevilly. Et pour nous, pour le Pays d'art et d'histoire, peut-être plus humblement, si je peux continuer, c'est continuer à le faire vivre sur son territoire, en quelque sorte. Et ça prend énormément de formes. Ça va de l'école, peut-être des petits-enfants de l'école, quand on parvient à les attirer dans la maison familiale, jusque, comment dire, voilà, des expériences artistiques multiples. Enfin, c'est aussi toute la richesse de cette expérience et du chemin que nous menons avec le grand Jules depuis pas mal d'années.
Quelques actions concrètes, je crois. Vous parliez effectivement d'intervention scolaire, vous parliez de représentation théâtrale, vous parliez de scène.
Oui, voilà. Alors, ça peut se prêter pour les enfants à des jeux d'évasion. Ça peut être... Et il y a désormais une équipe, d'ailleurs, qui s'est installée dans le musée avec Servane Lamotte en particulier, qui justement est entièrement dévouée à ça. Ils ont créé un atelier, bon, et ils font des activités destinées aux enfants. Et ça s'enrichit. Nous, on avait expérimenté les jeux d'évasion, où les enfants trouvaient des indices dans le musée, rencontraient Barbet au travers de ces indices et essayaient, j'imagine, de quitter la pièce.
Et vous avez éveillé les vocations, j'imagine?
À ça, j'évalue très mal les vocations qu'on peut susciter. En tout cas, si ça peut contribuer éventuellement à donner envie de lire Barbet, c'est sûr. Et là-dessus, c'est vrai que le fait que ça ait été au programme du bac, on l'a vraiment ressenti de notre côté, oui.
C'est un Barbet assez touristique, finalement, un Barbet des lieux. Je crois qu'il y avait une randonnée Barbet d'Aurevilly sur les lieux évocateurs du Connétable des Lettres.
À ça, alors, on fait des visites guidées, effectivement, assez régulièrement. Qui permettent. En fait, Barbet, on le rencontre, c'est une strate, comme je vous disais, c'est-à-dire ça va des saints, des premiers saints évangélisateurs du 4e, 5e siècle, en passant par Gilles de Gouberville. Et pour moi, c'est vraiment, il habite tous les lieux en définitive et inscrit sa narration, sa poétique, dans un espace nourri de narration et de poétique, dont lui-même s'est nourri abondamment et qu'il a su parfaitement, enfin, à sa façon, nous restituer. Mais on est tellement dans quelque chose de tranchant, de vif, quelque chose qui restitue une part, oui, quelque chose, oui, d'un rapport à ce territoire en tout cas, ouais, qui est très profond et très enrichissant.
Oui, quelqu'un qui fait découvrir finalement l'envers invisible du Cotentin, quelqu'un qui habite, au sens le plus fort du terme, le pays. Vous avez également commis un ouvrage, je crois, sur les lieux évocateurs de Barbet d'Aurevilly. Cette fois-ci, nous aurons Barbet d'Aurevilly, non pas en peinture, un art qu'il a connu, mais Barbet en photographie.
Ah oui, c'est une collaboration avec un excellent photographe qui est installé à Carteret, et donc dans un paysage aurevillien du matin au soir, et qui a souhaité faire s'inspirer de Barbet et produire un certain nombre de portraits du Cotentin. Il m'avait gentiment demandé de produire un texte pour accompagner son travail photographique. Voilà, ce qui m'a permis effectivement de lire de façon approfondie Barbet, malgré tout, de faire ça avec soin et d'y trouver beaucoup d'intérêt, oui.
Et quels lieux ont été notamment photographiés en particulier, que les auditeurs connaissent peut-être ou pourront découvrir?
Un certain nombre de lieux que Catherine Joseph a évoqués. On retrouve bien sûr le marais de la Censurière. Il est repassé au château d'Olon, du Quesnay. Il a dû traîner du côté du château des Saules, qu'on appelle aujourd'hui l'île Marie à Picauville. Il a fait un travail sur la mer aussi, bien sûr. Il a été très sensible à l'aspect maritime des paysages aureviliens. Le Marais aussi l'a beaucoup inspiré, mais dans une vision très noir et blanc, un certain regard en quelque sorte qu'il porte, qui est aussi une interprétation qu'on fait de l'œuvre de Barbet. Et dans ce sens-là, Barbet a vraiment porté un regard sur le territoire qui justement l'imprègne et en quelque sorte détermine et conditionne beaucoup le regard qu'on continue à porter aujourd'hui sur ce territoire. Et d'ailleurs, c'est peut-être une dimension critique qu'il faut savoir avoir vis-à-vis de Barbet lui-même dans sa dimension dramatique, poétique, romantique. C'est par exemple savoir que le Marais qu'il décrit de façon infiniment dramatique, un lieu de, comment dire, d'absorption, hein, de profonde absorption, et de son vivant extrêmement habité. Les gabariers circulent au contact des gardiennes d'oies, des vastes troupeaux, et de l'ensemble des petites cueillettes qu'on y pratiquait, des clottes et des dames se courber le dos à ramasser des bouses. Enfin, c'est étonnant comme il a imprégné justement une certaine vision en noir et blanc. Et peut-être que Millet l'a fait aussi d'une certaine manière.
Oui, donc la photographie donne finalement une Normandie plus réaliste que la Normandie aurévillienne. Elle montre un peu l'envers historique de la Normandie légendaire qu'a pu raconter Barbet.
Comme je pense que Madame Joseph le soulignait bien, c'est-à-dire qu'il y a une dimension inscrite, hein, il y a une dimension, il sait mettre son pas dans les ornières des chemins et ramener de la boue sous ses bottes, je pense qu'il sait la lourdeur des choses quelque part. Et la dimension légendaire, elle est là. Paradoxalement, je la trouve peut-être comme lui-même rajoutant une strate narrative à son propre récit, mais pas comme un élément qui, à mon sens, hein, mais alors on peut en débattre, fondamentalement l'imprègne quelque part. C'est ça qui est étrange, c'est qu'en même temps, cette magie, il la saupoudre à peine sur la magie du territoire normand dans sa lourdeur même, quoi. C'est comme ça que je le ressens ce soir, en tout cas.
Effectivement, c'est un peu un surnaturel saupoudré, induit. Mais l'intérêt peut-être du support photographique est justement de balancer l'historicité des lieux avec leur évocation littéraire. Et on peut voir, c'est un peu le thème de l'émission, que chez Barbet, il y a cette unité de l'art. Il y a l'unité de l'art par la peinture, il y a l'unité de l'art, on le voit et on le comprend, avec Julien D, par la photographie, tout simplement par la découverte touristique. Vous accueillez, je crois, de nombreux spécialistes de Barbet d'Aurevilly, de conférenciers.
Oui, on invite effectivement, on a un cycle de conférences en ce moment même qui se déploie. Bah, Bruno Santorin est déjà à la radio, donc il y a peut-être plus besoin de le présenter, Bruno, qui nous fait l'honneur, le plaisir, et voilà, et qui donne aussi un énorme, comment dire, apport culturel en acceptant de faire un cycle de conférences qu'il anime en compagnie de Isabelle Barré, que tout le monde connaît aussi parmi les amoureux de Barbet d'Aurevilly, et qui consacre beaucoup d'écrits et de passion réelle. D'amoureuse de Barbet d'Aurevilly, oui, c'est une amoureuse.
Et même si vous ne pouvez pas encore annoncer le programme, les auditeurs pourront éventuellement, s'ils passent par le Cotentin cet été, écouter avec profit vos conférenciers. Il y a eu, je crois, une série de conférences avec François Orsini qui avait ravi le public du Clos du Pays d'Art et d'Histoire.
Oui, et qui a donné lieu à autant de publications, et c'est ça qui est enrichissant, c'est de voir aussi que toutes les expériences qu'on mène ont parfois une fécondité qui dépasse le Cotentin, c'est-à-dire on vient se nourrir en Cotentin pour écrire un livre, et on le fait beaucoup, alors je tiens à le souligner, avec Valérie Aubert du Théâtre en Partance, Cédric Altadil, avec qui depuis plus de 10 ans désormais, chaque année, nous proposons des lectures de romans, de nouvelles de Barbet d'Aurevilly. Nous les retrouverons l'été prochain avec une lecture inédite consacrée au dandysme et à Georges Brummel, peut-être associée à quelques passages de Charles Baudelaire sur la même thématique. Et voilà, et ça, et eux, non seulement ils donnent à entendre Barbet, c'est vraiment des créations qu'ils acceptent de faire avec nous, et ils emmènent ensuite Barbet avec eux et le transportent dans beaucoup de lieux inattendus, des établissements scolaires, des scènes de théâtre dans le sud comme dans le nord de la France. Et donc on est très heureux aussi de partager ça avec eux et de voir à quel point ils font rayonner Barbet à travers ce qui vient prendre racine dans la maison même de Jules Barbet et de sa famille à Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Un grand merci Julien Day pour cette évocation. Les auditeurs pourront avec profit découvrir les travaux du Pays d'Art et d'Histoire et pourquoi pas rendre visite à Barbet d'Aurevilly. Catherine Joseph avait un mot à vous dire, je crois.
Oui, je voulais vous dire, Julien, que j'étais ravie de vous avoir entendu et que je m'apprête à bientôt retrouver le Cotentin. Donc, à vous revoir bientôt.
À très bientôt.
Merci, cher monsieur. Alors, effectivement, Barbet est un auteur au sens plein et entier du terme, pictural. Le regretté Joël Dupont parlait, par exemple, portrait de la marquise, n'est-ce pas, qui est un peu en creux, l'héroïne de George Sand constitue un peu l'antithèse de ce qui a pu être évoqué dans La Mare au Diable. Barbet, outre cette manière qu'il avait d'incarner la peinture dans l'écrit, Barbet fut également un grand critique d'art. On a dit que son goût n'était pas très sûr. C'est une phrase que vous reprenez dans votre thèse, quoiqu'elle est un peu dépréciative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Barbet, qui fut un grand peintre par écrit, aurait eu mauvais goût en art. Il aurait bien peint sans avoir compris la peinture.
Alors, c'est un très méchant mot de la part des Goncourt, qui étaient finalement méchants avec tout le monde, et qui effectivement estimaient que Barbet n'était pas un homme de goût. Par conséquent, non autorisé à parler d'art ni à critiquer l'art d'aucune manière. Cela dit, Barbet, bien plus finement que tout cela, a bien entendu fait fi de ses critiques. Il s'est amusé de lui-même en disant en 1872 qu'il allait faire un salon en tant qu'ignorant. Bien entendu, il s'agit là d'une formule rhétorique. Il savait très bien qu'il allait faire son salon à sa manière, puisque le Gaulois lui avait confié donc le seul salon, malheureusement, qu'il a pu assurer, alors que sans doute il aurait voulu pouvoir produire davantage de textes autour de la critique artistique. Mais voilà, c'est ainsi. Et ce salon, il l'a mené, bon, je crois, peut-être à deux journées près, parce que ça a été légèrement écourté finalement. Mais le Gaulois a bien reçu ses articles. Et alors, il a mené ça de manière tout à fait théâtrale, c'est-à-dire qu'on reconnaît bien le Barbet qui arrive comme s'il était justement au théâtre, faisant une entrée magistrale par la grande porte, et il ne nous laisse aucun détail de côté. Donc c'est tout à fait passionnant à lire, et on se rend compte une fois encore qu'il tient à privilégier la sculpture, parce que c'est pour lui l'art le plus noble. Alors il attache surtout de l'importance, bien sûr, à la sculpture en tant que force. Donc, il va plutôt trouver que Frémiet est un sculpteur intéressant, alors que d'autres le sont moins. Et par exemple, ça c'est un paradoxe, pour ce qui est des sculpteurs chrétiens, catholiques, il ne reconnaît qu'à Maldinet, pardon, du talent. Pour les autres, ils trouvent que c'est de la mièvrerie, que le Christ est représenté comme un Christ en crinoline, etc. Donc ça ne l'intéresse pas finalement. Mais ce salon est très marquant parce que d'abord, c'est son seul salon. 1872. Et il avait pour modèle les salons baudelairiens, ceux de 1845 et surtout celui de 1846. Mais il n'a peut-être pas réussi, comme Baudelaire, à trouver l'artiste qui soit l'artiste frère, c'est-à-dire qu'il n'a pas, comme Baudelaire, cheminé avec un Delacroix ou un autre artiste de grand renom, mais il a malgré tout mené son salon de manière très talentueuse et finalement assez amusante.
Oui, il avait pour modèle effectivement le salon de 1846, où Baudelaire avait éclaté son goût pour Delacroix et avait pu être l'arbitre des élégances et du bon goût pour toute une génération. Il avait ce modèle, en effet. Je crois qu'il y a quelques exemples emblématiques du goût de Barbet d'Aurevilly que vous avez pu reprendre dans votre thèse. Le Saint-Sébastien, faussement attribué à Van Dyck, je crois.
Oui, qui est en réalité un Rubens. Oui, effectivement. Alors, c'est là qu'on voit tout le paradoxe, c'est-à-dire que Barbet est enchanté par la sculpture, il nous explique qu'il n'y a rien de plus élevé que la sculpture, et dans la réalité, on voit bien qu'il est lui-même plutôt coloriste. Alors c'est très intéressant ce que disait tout à l'heure Julien Des, parlant du noir et blanc, de la photographie en noir et blanc. C'est vrai que ça va rejoindre éventuellement l'idée d'un clair-obscur, etc. Et puis quand on voit Une histoire sans nom, on est vraiment sans doute dans le noir, dans la bile, etc. Mais il n'empêche que Barbet est avant tout, je crois, un coloriste. Il aime la couleur dans toutes ses acceptions, que ce soit la couleur en peinture, en réalité, même s'il semble la dénigrer. Et effectivement, Rubens, c'est quand même le peintre de la couleur par excellence. Et il aime ce tableau de Saint-Sébastien. La Vierge à l'enfant, bien sûr, est un tableau très, très ancien, mais également où la couleur rouge domine. Et comme je le disais tout à l'heure, il tombe en oraison devant ce tableau. Il accorde un petit crédit au tableau de Brard, qui pourtant n'est pas si flatteur que ça, de Charlotte Corday, qui représente une Charlotte Corday un petit peu empâtée. Mais là, c'est le parti pris politique de Barbet qui l'emporte. C'est-à-dire que pour lui, c'est une véritable héroïne. Elle est normande, elle est de Caen. Elle a eu le cran de venir à Paris et de tâcher avec son courage effectivement indescriptible de monter jusque chez Marat et de faire ce que l'on sait. Et pour Barbet, c'est un acte d'héroïsme qui excuse toute maladresse dans la représentation, alors que bon, le tableau, franchement, de Brard n'est pas forcément
une grande réussite. Il y a chez Barbet, contrairement à la prétention objective de la critique, qui veut effectivement mettre à distance les affects pour voir l'œuvre en elle-même, une affirmation, écrivez-vous, de subjectivité, que vous rapprochez paradoxalement de Diderot, au fameux salon de 76, je crois, où il explique, où il faisait valoir un peu de manière arbitraire ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Barbet, bah, c'est des dégoûts, comme d'habitude. C'est souvent absolu, d'ailleurs.
Absolument. Barbet assume sa subjectivité pleinement.
Les sensations d'art.
Et voilà, les sensations d'art. Il dit être un barbare à sensations, c'est-à-dire que voilà, il va décrire exactement ce qu'il ressent. Il n'a pas de complexe. Il sait qu'il ne tient pas le langage des docteurs de l'histoire de l'art. Et il veut justement s'en éloigner parce qu'il veut parler de la sensation, de ce qu'il ressent au plus fort de lui-même. Donc, c'est le sujet Barbet qui s'exprime à propos de l'art. Alors, il n'est pas non plus toujours objectif. Là, on vient de le voir avec le tableau de Brard. Les gravures de Schnorr, par exemple, l'impressionnent, mais c'est surtout parce qu'on lui montre des missels. Donc, le missel renvoie, bien sûr, à la messe, renvoie à une forme de religiosité qui l'intéresse. Donc voilà, il va nous expliquer que c'est formidable. Alors, on ne connaît pas toujours non plus le degré de sincérité de Barbet parce que le politique peut aussi l'emporter sur le restant.
Bobino.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
A-t-il donné une définition de ce que pouvait être l'art quelque part ?
Alors, à vrai dire, Barbet se défend de donner des définitions justement parce qu'il ne se sent pas du tout l'âme d'un docteur de l'université au sujet des arts. Pour lui, c'est avant tout, comme on l'a dit tout à l'heure, une affaire de sensation et de sensibilité. En revanche, quand il explique que la sculpture est supérieure à tous les arts, j'en reviens à ce sujet parce que c'est quand même très important pour lui, eh bien, il y a une dimension théologique.
De présence réelle.
De présence réelle, voilà, d'incarnation du corps, et puis d'unité. C'est-à-dire qu'il va volontiers opposer la sculpture qui serait une à la peinture qui ne serait que mensonge parce que c'est la couleur et que la couleur est par définition multiple. Donc voilà, c'est chez lui quelque chose de très important. Mais il n'y a pas de définition au sens théorique.
On peut
avec
supposer plutôt amateur de portrait du fait de cette passion pour la chair, pour le corps et pour l'incarnation.
Oui, de portrait, mais ça peut être aussi de paysage, parce que il admire encore une fois beaucoup les paysages de Millet. Il admire la peinture de Rousseau, qui elle est sans personnage du tout, là c'est vrai. Donc il peut être aussi un peu imprévisible dans ses goûts.
Très bien. Il y a ce Barbet, effectivement, amateur d'art. Il y a ce Barbet, on aurait pu éventuellement parler d'un Barbet collectionneur ou d'un Barbet calligraphe. Je ne sais pas s'il avait une écriture calligraphique particulière qui pouvait le distinguer, comme chez Baudelaire.
Alors oui, il a une écriture qui est reconnaissable entre toutes, parce que ses manuscrits sont flamboyants, il utilise des encres de couleur. Alors, ça n'est pas systématique. Par exemple, dans les Dijecta Membra, il y a quelques pages qui sont très belles au sujet de toutes les maisons perdues parce que sa famille, malheureusement, a fait faillite. Et là, il ne va utiliser que des encres noires. Mais principalement, il utilise des encres rouges, des dégradés de violet, des verts. Donc, ces manuscrits sont extrêmement beaux.
Après le barbet artiste, après le barbet critique, après le barbet calligraphe, il y a même un barbet mélomane. Un barbet qui serait un barbet critique musical. Et les auditeurs savent mon inculture musicale, en tout cas mes amis chroniqueurs ne l'ignorent pas. Donc j'ai bien sûr confondu Guillaume Marchaud et Berlioz. C'est au son de l'enfance du Christ que j'accueille Mario Varro. Cher Mario.
Bonsoir.
Vous allez relever le niveau de culture musicale de cette émission, qui, comme vous le savez, est dramatiquement bas.
Alors, on entend en effet l'enfance du Christ de Berlioz, et vous avez évoqué Guillaume de Machaut, et on verra en quoi c'est important pour Barbet un peu plus tard. Il faut savoir que, pour commencer, pour Barbet, la musique n'est pas vraiment centrale hein, pour lui dans sa réflexion esthétique ni même dans sa critique. Hein, la peinture, et on vient de le dire, la sculpture, est une discipline artistique beaucoup plus importante pour lui dans sa composition, notamment d'écrivain et d'écriture. En fait, pour Barbet, la musique réside parfois avant tout dans la voix humaine. Hein, c'est un lien ténu entre le corps charnel et l'esprit divin. D'ailleurs, il méprise une sorte de virtuosité gratuite, hein, et il lui préfère en fait l'accent de la vérité passionnelle. Dans ses chroniques, il y a une quête d'harmonie, hein, qui n'est pas simplement technique, mais aussi morale. Hein. Et dans un recueil d'articles qui s'appelle Sensations d'art, qui a été publié en 1886, et qui sera la principale source hein, de ma chronique sur Barbet et la musique avec ses mémorandas. Barbet écrit « La musique, c'est de la passion qui chante hein. ». Donc il y a évidemment, on l'avait évoqué dans une autre émission, cet aspect passionnel qui est essentiel chez lui. Donc on voit qu'il y a une sorte de brièveté comme ça, lapidaire, qui va résumer son esthétique musicale. Donc pour Barbet, la musique, c'est l'incarnation du pathétique, hein. c'est un chant, mais qui peut être structuré et qui est aussi une incarnation. Hein. Barbet, il appartient à cette génération un peu de lettrés qui est un peu comme Stendhal avant lui, on vouait un culte à l'opéra italien, notamment à Rossini, il aimait beaucoup Rossini, ou un compositeur qu'on a un peu oublié, enfin que le grand public a oublié, mais qui est encore connu des mélomanes, qui s'appelle Cimarosa. Et il y a dans ces deux compositeurs une sorte de clarté, une élégance hein, de ligne qui répond à son idéal de dandy. À l'inverse, il y a une sorte de méfiance assez aristocratique hein, envers, et assez française aussi, envers une sorte de tumulte symphonique, surtout de germanisme, hein, qui arrive à la fin du 19e avec le Wagnerisme. Je le cite dans sa correspondance. « Le génie de Rossini a des ailes, les autres n'ont que des pieds et ils s'en servent pour trépigner sur nos pauvres oreilles. » Et on voit ici le trait d'esprit hein, du dandy. Dans ces fictions, la musique peut agir comme un déclencheur hein, de souvenirs enfouis ou alors un catalyseur de péché. Hein. On a le rôle que joue le piano dans le rideau cramoisi ou des chants liturgiques parfois aussi. On peut voir plusieurs évocations dans les diaboliques. Si on cite par exemple le plus bel amour de Don Juan, on a cette notation sur Mozart. Elle jouait ces morceaux de Mozart qui sont comme des confessions de l'âme faites à Dieu, mais que le démon écoute par le trou de la serrure. Donc là, évidemment, on a cette ambivalence toute aurésilienne est reprise ici au sujet de l'œuvre et de la musique mozartienne. Donc on l'a dit, c'est un grand défenseur de l'école italienne de musique, de Rossini, Cimarosa, Barbizzi, évidemment d'Otello, le Il Matrimonio Segreto, cet opéra de Cimarosa. On peut citer encore une fois Les Sensations d'art, le recueil de ses critiques. Rossini, c'est le génie de la santé dans un siècle malade. Sa musique ne vous analyse pas, elle vous emporte. Elle ne vous discute pas, elle vous guérit. Donc, il y a une sorte de capacité un peu thaumaturgique ou thaumaturge de la musique, ce qui est assez étonnant. Et il peut voir dans cette mélodie italienne une sorte de remède aussi au spleen et à ce romantisme aussi. Pour aller vite et pour aller à l'essentiel, puisque vous avez bien compris qu'il n'y a pas un système musical chez Barbet, ce sont finalement assez impressionniste et ça court sur des décennies. Il peut d'ailleurs changer d'avis sur un compositeur au fil des décennies, ce qui est assez classique finalement. Mais il y a, donc on l'a dit, l'importance chez lui de Mozart, notamment du Don Giovanni, qui fait entendre le rire du libertin face au jugement de Dieu. Voilà, on voit une fois de plus l'ambivalence aurésilienne face au Dieu et à Dieu et au diable. Et même s'il a une critique assez dure du wagnérisme pour des raisons patriotiques, nationales et puis historiques, surtout après 70 évidemment, mais il y a une sorte d'admiration d'un certain romantisme, notamment le Freischutz de Karl Maria von Weber, puisqu'il va aimer chez lui ce caractère nocturne, légendaire, ce côté un peu chasse fantastique, qui peut résonner avec ses racines normandes et les récits de sorcellerie, de l'ensorcelé, par exemple. Sur Mozart, qu'il aime décidément beaucoup, il écrit également dans une critique pour le Constitutionnel, Mozart a mis dans sa musique ce que les prêtres ne mettent plus dans leurs sermons, la terreur de l'invisible. Il pense ici évidemment à la célèbre statue du commandeur du Don Giovanni, c'est une évidence. On a parlé sa critique, en tout cas, de Wagner, qui l'appelait l'ingénieur du bruit, c'est quand même assez excellent.
Il avait la même mauvaise foi avec Goethe, oui, après la guerre de 70.
Voilà, toujours cette
l'ingénieur du bruit, incroyable.
Voilà, il va assez fort, bon, alors, en mobilisant tous les clichés anti-germaniques, Wagner ne fait plus de la musique, il fait de l'artillerie. Et il n'écrit pas pour des oreilles, mais pour des enclumes. Bon, voilà, donc on voit là le cas, le Barbet est polémiste. Pour aller à l'essentiel et pour peut-être pour conclure, pas faire trop long, on note aussi dans ses mémorandas une certaine dilection pour Chopin. Puisque autant il peut se méfier parfois d'un certain romantisme, autant il voit dans Chopin, je cite encore ses sensations d'art, ce qui est assez étonnant, comme image, je cite, « Chopin est le seul musicien qui n'ait jamais eu de ventre. Sa musique est de la dentelle de fer trempée dans des larmes. » Alors, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que là, il y a une sorte d'apparente fragilité de Chopin, une espèce de sentimentalisme qu'on peut critiquer parfois, qui a souvent été critiqué chez Chopin par certains snobs. Mais lui, il y voit
au dialogue de Sodome et Gomorrhe.
Exactement, tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on peut lire chez Proust, notamment. Mais lui, il y voit, c'est très intelligent, et c'est là qu'on voit que, à la fois, la musique n'était pas centrale dans sa réflexion, mais évidemment, il y avait une intelligence sensible, évidemment, de la musique chez Barbet. Et lui, il va voir, évidemment, la grande maîtrise et la grande régularité de Chopin et sa maîtrise de la composition. Je cite également sa correspondance. Il y a dans ses nocturnes quelque chose qui ressemble à l'agonie d'une rose, donc là, il joue sur les topoïs du romantisme, mais c'est la musique de la maladie, mais d'une maladie qui est une aristocratie de plus. Donc là, on peut dire quelque part qu'il plaque ses propres obsessions, peut-être, et ses propres catégories esthétiques sur Chopin, mais en même temps, ce n'est pas complètement à côté de la plaque. Il y a une sorte de lucidité, je dirais, esthétique sur la singularité du génie de Chopin. Donc, peut-être pour terminer la chronique,
il y a une lettre à Trébuchet, je crois également. Il évoque.
Vous dites pardon.
Il évoque la musique avec son correspondant, il me semble.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on évoquait Guillaume de Machaut. Barbet, évidemment, il y a cette conversion à la fin des années 40 qui est très importante. Et il y a, notamment dans ses lettres à Trébuchet, un rapport, enfin des textes sur le chant grégorien, ce qu'on appelle le plein chant, et les orgues aussi, vous savez, des cathédrales normandes de son enfance. Mmh. Et il écrit notamment dans une lettre de mars 1855 « Je n'ai jamais rien entendu qui m'ait donné l'idée de Dieu » comme ce plein chant vieux de 10 siècles, hein, dans cette nef froide et obscure où nos pères ont prié. Toute la modernité musicale n'est que bavardage auprès de ce silence habité. Donc évidemment, ce chant grégorien, ce plein chant, alors évidemment, c'est signe vers une sorte de médiévalisme qui est à la mode, et est à la mode encore plus.
Qui pourra rapprocher de sa passion pour la couleur, d'ailleurs, qu'évoquait Catherine Joseph, puisque les médiévaux étaient fans de multicolores, mmh. comme Barbet d'Aurevilly, effectivement, versé dans la musique médiévale.
Mais tout à fait, tout à fait, c'est une remarque très juste, et c'est en cela aussi qu'il se sentira qu'il se sent proche de Baudelaire, puisque c'est la question de la synesthésie, hein, évidemment, de cette superposition, de cette adéquation mystérieuse, sacrée, divine, hein, pourrait-on dire, entre différentes catégories et sensibilités esthétiques, que ce soit le son, le sens, ou la couleur, ou le domaine plastique, la peinture, comme la sculpture. Et il y a, pour revenir peut-être, pour conclure, et pour revenir à ce que je disais en préambule, c'est cette question de la voix, qui est une question importante, parce que la voix, elle est importante dans les romans de Barbet. C'est la voix, par exemple, de Lavellini dans Une vieille maîtresse. C'est la voix du dandy. La voix, elle a un rôle important. D'ailleurs, dans son ouvrage du dandysme et de Georges Brunel, il évoque la maîtrise du ton, hein, de l'intonation, qui est une compétence esthétique. Hein. Je le cite, « Il y a dans la voix d'un homme de race quelque chose qui ne s'apprend pas, comme il y a dans sa démarche quelque chose qui ne s'imite pas, c'est la musique de l'aristocratie. » Donc ça, c'est quand même assez
Oui,
assez
il y a une matérialité de la voix, en fait, c'est qui est important.
Ah, tout à fait,
oui.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ce caractère mélomane et ce côté de la voix, il fait aussi il établit une sorte de coalescence avec l'oralité, c'est-à-dire ce côté conteur, puisque Barbet, on le sait, est un conteur. Et cette oralité fait une sorte de siège, en fait, à l'intersection, hein, entre la musicalité de la voix et les puissances, les potentialités, les pouvoirs, finalement, du conteur. Et dans Une vieille maîtresse, d'ailleurs, Lavellini subjugue, hein, Rino de Marigny par la qualité de sa voix, sa singularité, son chant, avec souvent, évidemment, on le sait, ce caractère androgyne chez Barbet, qui est une obsession et un topos chez lui, et qui fait sens. Mais on peut citer notamment Une vieille maîtresse, quand elle chantait ses chansons espagnoles avec cette voix enrouée qui semblait faite d'un métal inconnu, râpeux et doux à la fois, Rino sentait quelque chose se dénouer en lui, comme si une main invisible eût défait les nœuds de sa volonté. Donc on a quelque chose, hein, là on est vraiment dans l'oxymore fondamental, hein, de la femme fatale aurévilienne, qui attire aussi par sa rugosité, ce qui résiste au poli des conventions. Et donc la métaphore de dénouer les nœuds, hein, bon, il y a une somme même de pléonasme, c'est assez étonnant, mais qui place la musique du côté parfois de la dissolution du sujet, qui peut être aussi un thème central de l'esthétique aurévilienne des passions.
Terminons cette évocation au son de Van Weber, le cœur des chasseurs, pour souligner cette exaltation presque païenne, cette forêt sonore, cette énergie que Barbet n'aurait sans doute pas reniée. Merci Mario Varro pour cette belle évocation du Barbet mélomane, du Barbet sonore, du Barbet de la matérialité de la voix, comme Catherine Joseph nous a parlé du Barbet de la matérialité de la couleur. Barbet a été critique d'art, Barbet a été à sa manière artiste, Barbet a été à sa manière un auteur pictural, Barbet a également été aussi à sa manière, une muse. C'est un artiste posthume, c'est un artiste dont l'art survit à la mort. Barbet a inspiré les artistes, tant les artistes dessinateurs, tant les illustrateurs que les cinéastes. Ce dont nous allons parler avec Catherine Joseph, mais d'abord, nous avons le plaisir de recevoir un chroniqueur habituel qui a également commis un ouvrage, Barbet et les illustrateurs de l'œuvre de Barbet d'Aurevilly, Buot, Robst, etc., etc., Bruno Santoram. Vous êtes avec nous ?
Oui, tout à fait. Oui.
Réagissez. En effet, Bruno Santoram, votre ouvrage sur les illustrateurs de Barbet d'Aurevilly est à fois un livre d'histoire de l'art, un livre de littérature et presque une histoire assez unique en son genre de la réception de Barbet d'Aurevilly par ceux qui l'ont illustré. Avant d'évoquer ces illustrateurs un à un, vous citez, je crois, dans l'ouvrage un nommé Pierre Mornant qui formule une objection presque définitive à votre objet. Le dessinateur ne pourra jamais concentrer dans une même image les deux faces si opposées de son étrange talent, celui de Barbet d'Aurevilly. Alors, une question, Bruno. Barbet n'est-il pas finalement un écrivain fondamentalement inillustrable ?
Alors, plusieurs personnes, évidemment, l'ont souligné, mais c'est là le paradoxe. C'est un des écrivains du 19e siècle qui a suscité le plus d'illustrations, avec Balzac, je pense, peut-être plus que Victor Hugo et surtout Chateaubriand. Mais avec Balzac, il a suscité quantité d'éditions, non seulement au 19e, mais tout au cours du 20e siècle et jusqu'à nos jours. Il y a quelques années encore, il inspire les jeunes illustrateurs, même certains illustrateurs de bandes dessinées, ce qui est quand même à souligner.
Il y a un Barbet du réalisme dramatique, il y a un Barbet romantique, il y a un Barbet de l'élévation religieuse. Est-ce que les illustrateurs n'ont pas dû à chaque fois, on en revient sur ce caractère inillustrable, opérer des choix d'interprétation, n'est-ce pas ? Et décider, lorsqu'ils illustraient Barbet, quel Barbet ils allaient illustrer parmi ces nombreux paradoxes ?
Alors c'est très variable. Alors il faut d'abord commencer par évoquer les illustrateurs qui ont illustré Barbet de son vivant. Le premier, c'est le Wallonier Félix Buot, donc qui était né en 1847, mort en 1898, qui était un des meilleurs graveurs aquafortistes français de la fin du 19e siècle. Alors, la vision qu'il a laissée du Cotentin de Valognes est une vision très noire, très pluvieuse. En particulier, il illustrait le Chevalier des Touffes. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que il a illustré trois romans de Barbet en un très court laps de temps, dans les années 1877, 78 et 1879. Il a illustré pratiquement, donc en même temps, ces trois livres. Donc, du Chevalier des Touffes, il nous a laissé des visions inoubliables de Valognes sous la pluie, la rencontre de l'abbé de Percy et du Chevalier des Touffes au début du roman, devant le fameux calvaire de la place des Capucins, où l'on aperçoit le dôme et la flèche de l'église Saint-Malo. C'est une des meilleures gravures du 19e siècle français. C'est surtout L'Ensorcelé, je pense, qui l'a inspiré avec bonheur. Et en particulier certaines scènes. Je peux peut-être vous en lire deux, trois extraits ?
Absolument, absolument.
Alors, la composition la plus magistrale demeure la chevauchée nocturne de l'abbé de la Croix-Jugan dans la Lande. Cavalier et monture s'y détachent du sol par l'ombre qu'ils portent sur la lueur lunaire que laisse filtrer un ciel nuageux et tourmenté. Telle une aile noire cinglant au vent, la cape déployée permet un effet saisissant, transfigurant le cavalier en un être fantastique, mi-démon, mi-vampire. Évoquant la forme d'une corne, elle renforce et accentue le mystère de la scène. L'on songe immanquablement ici à une certaine veine méphistophélique, Faust et son mauvais ange ayant inspiré à la suite de Goethe les plus grands créateurs, de Delacroix à Berlioz, de Gounod à Murnau. Particulièrement enlevée, la composition de Buot traite le mouvement du destrier d'une façon sidérante et vous emporte avec lui dans son tourbillon éperdu. Donc c'est une vision spectrale qui relève d'un romantisme tardif et constitue une sorte d'aboutissement après tant d'autres œuvres romantiques d'Horace Vernet. On pense à Mazeppa, non seulement d'Horace Vernet, mais aussi de Chassériau et d'autres œuvres des romantiques.
La chevauchée de la Croix-Jugan vaut vraiment le détour. Je la conseille aux auditeurs ainsi que le livre de Bruno Santoram. C'est une illustration, elle est très simple, mais elle saisit vraiment. Elle dit beaucoup de l'œuvre.
Et c'est un morceau de bravoure de la part de l'artiste. Il faut dire que Buau reprenait quantité de fois ses gravures, il replongeait dans l'acide, enfin c'était vraiment une technique très compliquée, très perfectionnée, très aboutie, et ses amis artistes admiraient beaucoup son très grand talent.
Il y allait à l'eau forte, c'est ça, non?
Il y a aussi une autre œuvre qui est un des sommets, on peut dire, non seulement de l'œuvre de Buau, mais de la gravure du XIXe siècle, alors qui a été exposée au salon de 1886, donc quelques années après la parution des planches qui accompagnaient l'œuvre de Barbet. Alors il faut dire que l'éditeur Lemaire a reproduit, après la mort de Barbet, dans quantité d'éditions plus ou moins bon marché, les gravures de Buau. Au début, elles étaient vendues dans une chemise à des prix très élevés. C'était des tirages de luxe que n'importe qui ne pouvait acquérir. C'était vraiment les collectionneurs, les amateurs qui pouvaient en faire l'acquisition. Et donc, avec cet ex-libris, donc une des rares gravures exposées au salon de 1886, il semble avoir atteint l'un des sommets de son art, sorte de synthèse architecturale et paysagère des marches et des marges du Cotentin, royaume des eaux dormantes et troublées. Par cette œuvre, de plus abouti, il parvient à résumer en une symbolique puissante le roman de Barbet, tout en dévoilant les ressorts intimes de son talent. Alors le critique Gustave Bourcard l'a ainsi décrit. Au-dessus d'un lac, à la surface duquel flotte le cadavre d'une femme nue qu'un cygne vient contempler, un vaste portique d'église orné de statues, à travers lequel on aperçoit dans un ciel noir une silhouette de château. Au milieu de ce portique, un grand cartel sur lequel on lit gravé « Ex libris d'eau forte pour l'ensorceler » de M. Jules Barbet d'Aurevilly. À droite et saillant derrière ce cartel, une branche d'arbre sur laquelle est perché un hibou. Le hibou était l'emblème du graveur Buau. À gauche, l'abbé de la Croix-Jugon debout, appuyé sur une longue épée, la pointe en terre. Une partie de la planche est entourée de lierre. Il faut préciser que certains personnages, dont l'abbé de la Croix-Jugon, sont à peine perceptibles. Pour vraiment les apercevoir, il faut contempler longuement, même au besoin avec une loupe, donc cette gravure. Au contraire de Millet, qui expose en pleine lumière son Ophélie voguant au gré des eaux, couchée en ses longs voiles, selon Arthur Rimbaud, la mort de Buau est comme fondue dans la nature environnante parmi les herbes aquatiques qui parsèment la composition. L'impression de fraîcheur que procure le cadre végétal, roseaux, lierre et fleurs, renforce encore cette impression. À cette pâleur sacrificielle s'oppose la noirceur de l'abbé, nouvel ange exterminateur, tenant en main une épée vengeresse fichée en terre. Plus encore que le corps de l'héroïne, deviné plus qu'entrevu, il est impossible de l'identifier et même de le distinguer sans avoir recours aux descriptions précises de la scène. Les aspects horrifiants de l'intrigue se noient dans le paysage ambiant et ne peuvent être perçus que par un lecteur attentif du roman. La tête de diable cornu et la silhouette ombrée du hibou renforcent encore cette impression générale de trouble qui suinte de l'ensemble comme maléficié, renvoyant sans doute à cette sorcellerie qui apparaît dans l'ouvrage de Barbet et ce dont témoigne avec force le titre même de l'œuvre. Alors il faut noter aussi l'ordonnancement architectural de ce portique, quintessence même de l'art du Moyen-Âge, qui s'élève majestueusement au-dessus des eaux dormantes et troublées, royaume contrasté à l'échappée vers le lointain où la grâce du cygne immaculé côtoie l'insoutenable vision. Nous sommes ici au confluent de deux courants artistiques. Cette vision poétique relevant d'un romantisme tardif et touche déjà au pré-symbolisme. Tenant du faune, une tête de diable entre deux guirlandes à deux autres masques relève plus d'une antiquité renaissante que de l'art médiéval et apporte ici une note démoniaque, discrète certes, mais néanmoins bien représentée. Après le poison, l'antidote matérialisé sous la forme de trois sculptures érigées en pinacle. Juste au centre, au sommet de sa colonne, s'élève une figure angélique et dominant le tout, l'image apaisée et consolatrice de Dieu le Père soutenant le crucifié. Incarnation suprême de la compassion qui apaise la composition générale. L'effigie du moine en prière sert de contrepoint à l'abbé, dissimulé dans la noirceur et dont seul apparaît le glaive vengeur, antithèse du livre saint que médite le pieux cénobite. Nous sommes donc ici en présence de trois trinités, l'une diabolique et l'autre céleste, et dont une trinité souffrante constitue à son tour la part essentielle. Donc, je ne vais pas continuer la lecture, mais voyez la richesse que peut évoquer parfois une œuvre d'art, une gravure en l'occurrence.
Il y avait Félix Buau, sauf s'il y a encore grand-chose à en dire. Et vous avez effectivement un illustrateur plus décadent, je crois, Noé Félicien.
Félicien Rops, donc, qui était un Belge, qui a fait paraître en 1882 une illustration du diabolique, une suite d'eau forte qui est très souvent reproduite dans les histoires de l'art. Bon, c'est parmi les plus belles eaux fortes du 19e siècle également. Et là, il y a de très belles descriptions dues à Léon Bloy et à Huysmans. Alors Léon Bloy voit dans les diaboliques une complainte horrible du péché, sans amertume ni solennité, mais grave, mais orthodoxe et d'une apaisable véracité. Passionné pour le mystère, elle aimant jusqu'au mensonge, jusqu'à l'enivrement du mensonge. Telles sont les femmes endiablées dont Barbey d'Orvilly nous raconte l'effrayante histoire. Une eau forte de Félicien Rops nous montre l'une d'elles, debout, les pieds sur un enfant mort, et de ses deux mains tragiquement ligaturées sur ses lèvres, bâillonnant, calfeutrant, séquestrant sa bouche. Alors c'est une allusion bon, au-dessous de cartes d'une partie de Whist. Garrotté dans son mensonge comme le prince des maudits au fond de son puits de ténèbres, c'est la fantaisie de ce fantôme de descendre ainsi l'emblématique bandeau de la passion et de s'unifier en cet ajustement nouveau pour les suppôts des démons, la déchéance de la cécité. L'amour ici n'a plus à même l'honneur mythologique de paraître un rhapsode aveugle. C'est une cariatide de la maison du silence fagotée par les serpents du crépuscule pour d'un sou soupçonnables attentats. Alors, bon, cette description bon, est vraiment demeurée fameuse à juste titre. Huysmans, quant à lui, s'est également attaché à l'analyse d'une œuvre qui n'hésite pas à magnifier en des termes particulièrement louangeurs. Ainsi que les peintres du Moyen-Âge que la figure de la mort hantée, M. Rops l'approche et fasciné tourne autour d'elle. Son œuvre, la choix, la dévie, l'active dans ce sentiment baudelairien qui semble la dernière expression de l'art catholique chez les modernes.
On a aussi des illustrateurs plus cher Bruno Santorum. Cher Bruno Santorum, on a aussi des illustrateurs plus sages. Je crois qu'il y a quelque chose de plus académique. Vous évoquez par exemple.
Il y a tous les styles, le meilleur comme le pire. Alors parfois Barbey a parfois été très très dur, même envers Rops et surtout envers Justin Leblanc, à qui il l'a reproché d'illustrer les chouans du Chevalier des Touches comme des chouans d'opéra comique.
Oui, des chouans en costume, effectivement. Rapidement.
Alors même, sur Rops. Alors voilà ce que disait Rops en 1883. On m'a dit que Barbey éreintait les diaboliques. J'en suis flatté. Cela prouve que j'ai fait œuvre au pied de la sienne. Une œuvre en contrebas, mais je veux bien être au sous-sol de Barbey. Telle est mon estime pour son talent. Et comment Buot aussi a souffert de critiques de Barbey à son égard, mais c'est avec Justin Leblanc qu'on atteint le sommet. Attends, je vais essayer de retrouver la citation. Ah, voilà. Ce Leblanc m'a fait des chouans d'opéra comique. Il les a bottés en bottard vert, poudrés en habit à la française. Eux, les chouans, à pot de bique, à grand chapeau, à couverture, à queue et à mouchoir noué derrière les oreilles, ces guérillas, ces catérans qui se battaient et couchaient la nuit à la belle étoile comme des chabans. Et oui, il était parfois très, très dur.
Il y a une diversité, étonnante d'illustrateurs dans votre ouvrage. Par exemple, on a par exemple un nommé Pastret qui fait une espèce de ciel assuré avec des formes ondulantes, des fumées, une espèce de fantastique un peu discret.
Oui, des monuments du Cotentin. Il est allé sur place, à Valognes en particulier, faire des croquis. Donc c'est de très bons témoignages. Mais bon, nous sommes durant l'entre-deux-guerres, c'est beaucoup plus sage. Bon, il a illustré également Balzac et d'autres.
On a également à nommer.
Alors, les auteurs très intéressants sont les germaniques. C'est Alfred Kubin qui était autrichien et Alastair qui était allemand. Je peux les évoquer rapidement ?
Oui, décrivez un peu les images.
Oui, alors Alfred Kubin est un autrichien qui a fait paraître de très nombreuses illustrations des diaboliques à Munich en 1921. Alors, tout ça relève de l'expressionnisme allemand, c'est juste après, 3 ans après la défaite, vous voyez. Il y a donc une grande volonté des artistes allemands, d'oublier un peu les déboires de leur pays, pour illustrer différents écrivains, donc en l'occurrence Barbey. Alors Kubin est un être très, très tourmenté, certains on peut dire même à la limite de la folie. Il s'est complu à représenter quantité de personnages monstrueux. Certains ont fait même le lien avec Jérôme Bosch, vous voyez.
Au-delà de l'Allemagne, vous avez même, je crois, des Russes, nommé Ostrovski, par exemple, qui fait une lecture un peu symbolique.
Et puis Serge Ivanov, qui était un Russe blanc réfugié en France durant l'entre-deux-guerres, qui a fait, alors lui, de très belles illustrations des diaboliques. Mais ce sont de belles dames dans des salons, des dandys froids et glacés. C'est très élégant, très, certains diront peut-être même maniéré, mais très, dans une esthétique très art déco, mais de très grand talent.
Et puis nous avons quelques illustrateurs contemporains, notre amie Florence Burnouf,
oui.
Par exemple,
ah bah,
qui nous campe.
Oui, Florence Burnouf, qui illustre toujours Barbet. Depuis
un beau Sombreval, je crois.
Oui, tout à fait, en particulier, elle illustrait aussi des poèmes, bon, Un amour de jupe, et également certaines diaboliques, Le bonheur dans le crime, là, une scène de Duel en particulier, et puis Marc-Olivier qui a fait une très belle...
Et le normand Christophe Rouille, qui propose un ange guerrier à travers le chouan.
Oui, oui. Vous avez Guillaume Sorel, aussi Laurent Vicomte, des normands qui se sont attachés... depuis 20 ans, à illustrer Barbet.
J'en reviens à la question initiale. Est-ce que les illustrateurs de Barbet n'ont pas proposé une lecture et n'ont pas épaissi Barbet, voire ne l'ont pas parfois trahi?
Alors parfois, à la belle époque, il y en a qui ont représenté des femmes capiteuses. Bon, c'est plutôt un peu des scènes inspirées de Degas, de Toulouse-Lautrec, bon, à la limite de la caricature, de femmes opulentes comme on les aimait à la belle époque. Bon, là, on s'éloigne un peu... bon, des scènes de Barbet, quoique Barbet décrivait parfois des femmes bien en chair aussi. Mais là, bon, on pousse un peu vers le, enfin, je veux dire, le décadent, mais un peu vers le complaisant, dirons. Voilà.
Est-ce que Barbet a été muse d'art? Est-ce qu'on peut dire que tous ces illustrateurs, tous ces peintres ont été influencés et inspirés par Barbet d'Aurevilly?
Ah, je pense que les artistes cultivés le lisaient. Alors l'exemple le plus intéressant, c'est l'allemand Alastair. En fait, c'était un aristocrate allemand, Hans Henning von Voigt, qu'on disait être le fils naturel du roi Édouard VII d'Angleterre, mais cela semble être faux. Et il a illustré La vengeance d'une femme en 1924 dans un style, bon, on a pu dire, très décadent. Alors ce sont des gravures très fines. Alors il représentait beaucoup, alors au contraire des femmes opulentes que j'évoquais à l'instant, ce sont des femmes anorexiques. L'un de ses modèles favoris était la marquise Casati, qui a inspiré quantité de peintres et qui était d'une maigreur squelettique, une femme extravagante qui se promenait en tenant, je sais pas, un fauve en laisse, un guépard, enfin, vous voyez, bon, une panthère, ultra maquillée, tout habillée de noir ou de blanc, enfin bon, des personnages fantastiques de l'entre-deux-guerres. Et cet Alastair, sur le tard, a même traduit L'Ensorcelé, je crois, en 1950. C'était un homme extrêmement cultivé, qui parlait sous cette langue, très cosmopolite. Mmh. Vous voyez, bon, les artistes décadents de la fin du siècle, Aubrey Beardsley, Oscar Wilde et autres.
Les illustrateurs de l'œuvre de Barbet d'Aurevilly, par Bruno Santoram, un ouvrage que vous pouvez encore vous procurer, sauf si Bruno Santoram... Vous voulez ajouter quelque chose, une ultime note sur les illustrateurs et donc cette évocation que vous avez faite.
Bon, c'est inépuisable, mais on en découvre toujours. Mais enfin, bon, ça a été une étude très, très passionnante à mener. S'il y a, par exemple, l'Américain Donald Denton, en 1928, qui a livré une vision art déco de ce qui ne meurt pas. Donc, c'est un ouvrage introuvable.
Vous découvrez la grande diversité des illustrations, justement, de Barbet d'Aurevilly, avec du pastel, avec effectivement une touche très moderne, parfois très colorée, très insistante, et qui peut contraster, effectivement, avec parfois la noirceur, le clair-obscur, le fusain.
Oui, parfois ultra-moderne aussi.
Ultra-moderne, même. Oui, avec même sa forme d'abstraction. Effectivement. Puisque Barbet a été critique d'art, puisqu'il a été effectivement artiste, puisqu'il a inspiré des artistes, puisqu'il a été muse d'art, on peut même dire qu'il anticipe de façon probablement anachronique, et ce sera notre dernier point, le dernier art, ou du moins une des dernières techniques artistiques qui a été développée, le cinéma. Barbet a pu être, à sa manière, un romancier cinématographique. Il y a déjà dans ses ouvrages des scènes de mouvement, de sidération visuelle. Prenez par exemple le supplice du meunier dans Le Chevalier des Touches qui est attaché à l'hélice d'un moulin, quelque chose qui aurait inspiré, pourquoi pas, un cinéaste. Prenez les chevauchées nocturnes de la Croix-Jugant dans L'Ensorcelé. Ce sont des scènes qui impriment, ce sont des scènes visuelles, ce sont des scènes qu'on voit, qui sidèrent, qui marquent. En même temps, pas non plus forcément toujours été représenté, encore que la dernière partie de votre thèse, de votre étude, Catherine Joseph, concerne les adaptations cinématographiques de Barbet d'Aurevilly. Alors, on pourrait effectivement, et vous le faites, une liste et un inventaire des adaptations cinématographiques de Barbé d'Aurevilly. Est-ce qu'il y en a quelques-unes pour terminer l'émission que vous voudriez évoquer auprès des auditeurs? Barbé au cinéma.
Oui, alors je crois que Barbé a inspiré certains cinéastes, et ça dès le début du XXe siècle, puisque Robert Wiene a produit un film en noir et blanc. Yves Allégret, en 1952, a également adapté Le plus bel amour de Don Juan. C'était sous le titre de La Luxure, donc il s'agissait d'un film franco-italien avec plusieurs sketchs, comme on en faisait beaucoup à l'époque. Et puis, bien sûr, il y a le film marquant d'Alexandre Astruc, qui a obtenu le prix de Luc en 1952. Alors, ce film, qui est conçu avec une grande économie de moyens à tout point de vue, reprend le dispositif de la caméra stylo, c'est-à-dire que le réalisateur s'appuie sur le texte même de Barbet, et c'est la caméra qui fait office, en effet, de stylo. Donc, c'est un film en noir et blanc, et le texte que l'on entend est essentiellement celui de Barbet d'Aurevilly, avec quelques coupes, bien sûr, mais on retrouve exactement l'essentiel, et la voix off donne une force particulière aux images. Donc c'est un film que je recommande, hein, qu'on peut encore voir en cinémathèque. Et puis je voudrais faire un sort aussi à l'œuvre de Catherine Breillat, qui a été très mal comprise, très mal reçue. Son film adapté d'une vieille maîtresse, qui a un très beau casting, a été très, très mal compris, très mal accueilli, en particulier par les Normands, voire par les Aureviliens. Et je trouve que c'est une injustice qu'il faut absolument réparer. Ce film ressort en Blu-ray, donc avec une très grande qualité de définition, et ça mériterait que les auditeurs fassent l'effort de le revoir, justement, avec cette très belle définition. Catherine Breillat y exprime son art. Vous le disiez tout à l'heure, les objets peuvent avoir une importance, mais évidemment, chez Barbet, on n'est pas dans le naturalisme, ni même dans le réalisme. C'est pas l'objet pour l'objet. C'est l'objet qui va dire ce que sont les personnages. Et Catherine Breillat a joué ce jeu, c'est-à-dire que quand il y a de l'argenterie, c'est de la véritable argenterie, les vêtements, elle les a fait concevoir ou elle les a achetés, mais elle les a achetés toujours dans l'esprit de l'œuvre, et elle a appliqué un soin, qui est le soin d'ailleurs du peintre, à composer toutes les scènes de manière extrêmement artistique. Alors bien sûr, elle n'a pas tourné en Normandie, c'est ce qui lui a été beaucoup reproché, mais elle estimait que Fort-la-Latte, c'était la représentation absolue du château. Oui, mais en même temps, elle voulait absolument que ce soit dans l'esprit des Hauts-du-Hurlevent, elle voulait que la mer batte les murs, etc., parce que c'est la manière dont elle a lu Barbet. Et ensuite, comme c'est une cinéaste, elle a fait énormément de citations. Par exemple, Asia Argento est coiffée exactement comme Marlène Dietrich dans La femme et le pantin. Il y a des citations en creux. Elle a refusé de faire un bal parce qu'elle savait qu'elle n'arriverait pas à dépasser Visconti. Donc, c'est un film qui est vraiment extrêmement intéressant. Elle a un casting, comme vous l'avez dit, hors pair. Ce sont les débuts de Léa Seydoux, sa nièce, qui est tout à fait remarquable dans le rôle d'Oliva. Et je lui posais la question de savoir pourquoi ce baiser qui n'existe pas dans l'œuvre de Barbet. Et elle m'a dit, mais ça m'est venu comme ça, comme le coup de pinceau vient au peintre. Je me suis dit qu'il fallait mettre en valeur l'actrice qui n'était pas encore très connue. Et dans la mesure où elle faisait face à Michael Londal, il était important qu'on puisse la remarquer. Donc effectivement, ce baiser qui est très beau est un plan très réussi, mais qui n'existe pas dans l'œuvre. C'est donc la lecture de Catherine Breillat, sa lecture d'une vieille maîtresse qui nous enchante. Alors, ensuite, bien sûr, il y a eu toutes les adaptations télévisuelles que nous connaissons.
Barbet a surtout été un support, et c'est assez paradoxal, de téléfilms.
Absolument.
Parce que l'ORTF a quand même mis en scène Une histoire sans nom, le chevalier touche, l'ensorcelé, plusieurs fois d'ailleurs pour l'ensorcelé. Barbet a aussi été un peu cet auteur qui servait de films patrimoniaux quand l'ORTF faisait encore connaître la littérature via le téléfilm aux Français.
Absolument, c'est un auteur qui a été très courtisé par l'école des Buttes-Chaumont. Et ce qui peut paraître aussi paradoxal, c'est que ce sont souvent des réalisateurs qui avaient une carte au Parti communiste qui ont le plus axé leurs adaptations sur Barbet. Et ils le faisaient dans cet esprit de culture pour tous, parce qu'effectivement, on était encore à une époque où on se disait que l'instruction était quelque chose de tout à fait capital et que c'était une manière de faire rentrer la culture dans la salle à manger, y compris des ouvriers. C'était le parti pris de Jean Darcy, qui était à l'époque le patron de la télévision.
Adaptation de bonne facture, peut-être qu'il y en a une que vous pourriez recommander, puisque les auditeurs avec un abonnement Madeleine, Ina, pour 3 euros par mois, peuvent, vous le savez, consulter ces archives.
Alors, je recommanderais en premier lieu Le bonheur dans le crime.
Jean Prat.
Voilà, Jean Prat, qui a été diffusé pour la première fois en 1961. Haute-Claire, bien sûr, c'est pas vraiment Le bonheur dans le crime. L'adaptation porte le titre de Haute-Claire, mais reprend bien sûr Le bonheur dans le crime. Avec Michel Piccoli, c'est vraiment une très belle réussite. Alors que Jean Prat, qui a également adapté L'ensorcelé, a peut-être moins bien réussi son film en couleur que ce premier film en noir et blanc avec très peu de moyens. Alors, L'ensorcelé est évidemment tout à fait regardable, mais...
Voilà. Ensorcelé, dont on peut d'ailleurs vous annoncer une adaptation qui pourrait paraître bientôt sur grand écran avec Jean-Marc Cugliersi comme réalisateur, quelque chose qu'on attend puisque ça serait la dernière adaptation de Barbet d'Aurevilly. Il y en a d'ailleurs quelques étrangères. Je crois que vous parliez d'un réalisateur portugais qui avait osé adapter la terrible nouvelle La vengeance d'une femme. C'était en tout cas une belle évocation artistique, conclusive de Barbet d'Aurevilly. Un Barbet après Barbet, un Barbet après son œuvre, un Barbet muse, un Barbet artistique. Quelque chose qui va conclure l'intervention avec un auditeur qui nous dit bon. Bonsoir à tous, j'adore vos émissions Barbet. Un petit détail, on prononce gageur et pas gageure, comme l'a remarqué et comme m'a corrigé l'invité. Merci l'auditeur. Une question, quel texte théorique et non romanesque de l'auditeur, votre invité, vous conseillerait? Pourquoi pas la correspondance? C'est fini en tout cas, 6 émissions sur Barbet, une belle promenade, une belle évocation qu'on a fait avec vous, chers auditeurs. J'espère que vous avez intéressé. J'espère vous faire lire le Cognita des lettres. Merci Catherine Joseph, merci Bruno Santoram. À dans un mois et d'ici là, que Dieu vous garde.
Merci à vous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Littératures dirigé par Hector Burnouf, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 16 avril 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.